Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct de la Maison de la Radio pour un grand bien vous fasse qui accompagne votre quotidien bouleversé. Dans la première partie de l'émission, vers 10h05, vous retrouverez la chronique de l'indispensable François Morel. Le temps de regarder un film ou une série, ce sera avec le journaliste Xavier Le Herpeur qui évoquera trois séries cultes autour de l'enfermement, Lost, Oz et Le Prisonnier. Redouane Tella de l'Instant M prendra le temps de regarder la télé et vous recommandera La Petite Librairie de François Bunet. Nous prendrons également le temps de réfléchir à notre condition humaine confinée en compagnie de la philosophe Marianne Chaillant qui s'appuiera sur les chansons de Christophe. Dans la seconde partie, nous recevons une personnalité qui réfléchit à notre société confinée et au monde d'après. Ce matin, le directeur des rédactions du Parisien, Nicolas Charbonneau. Nous prendrons également le temps de cuisiner maison avec Danielle Jerkens, directrice de la rédaction de Elle à table. Et le temps de lire, ce sera avec Christina Pelledouel qui vous recommandera un livre audio de Simon. Non. En fin d'émission, un peu d'air frais, nous célébrons les comédies américaines de l'âge d'or. Nous évoquerons les dieux Lubitsch, Capra, Howard Hawks, Léo McCarré, Billy Wilder pour célébrer ces comédies scintillantes et grinçantes. Entebbe, Laurent Bourdon et Clément Safra. Quelles sont vos comédies américaines préférées des années 30, 40, 50 ? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 sans oublier l'appli France Inter. Mais avant cela, comment dormez-vous en ce moment ? Faites-vous des rêves bizarres liés au confinement, davantage de cauchemars ? Nos invités, Isabelle Arnulf, Patrick Lemoine et Gérard Bonnet, vous répondent. Le standard vous est ouvert, ainsi que la page Facebook de Grand Mal vous fasse. Et comme tous les vendredis, pour vous accompagner tout au long de l'émission, Guillemette, Odissino, tous ensemble à la maison. Bienvenue dans Grand Mal vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
Bonjour, professeur Isabelle Arnulf. Bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, directrice de l'unité de pathologie du sommeil à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes chercheuse à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Bonjour Patrick Lemoine.
Oui, bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, spécialiste du sommeil. Dernier ouvrage paru chez Humaine Sciences, Apprendre à dormir. Bonjour Gérard Bonnet, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, directeur de la collection Psy pour tous chez InPress, l'auteur donc de nombreux ouvrages pédagogiques sur la psychanalyse et vous avez enseigné la psychopathologie à l'université Paris 7. Alors on va s'intéresser aux difficultés du sommeil au temps du coronavirus, du confinement. Mais quel est le déroulement normal d'une nuit de sommeil, professeur Arnulf ? Quelles sont les grandes étapes qui composent notre sommeil ?
On s'endort en une trentaine de minutes, souvent avant. Mmh. Et puis ensuite, on débute par du sommeil léger, et puis du sommeil profond, dans lequel c'est difficile de nous réveiller. Mmh. Puis au bout d'une heure et demie, apparaît le sommeil paradoxal, dans lequel le cerveau paraît beaucoup plus actif et dans lequel on recueille plus de rêves. Il y a des rêves aussi en sommeil lent, mais ils sont moins longs, moins bizarres. Mmh. Et puis on finit un cycle de sommeil d'une heure et demie, et à peu près en moyenne, et puis on recommence 3 à 5 fois par nuit. Il y a des réveils évidemment, bref, dans la nuit. Mmh. Voilà comment se passe une nuit habituelle.
Laure Aubert nous dit que le sommeil, c'est l'état d'une personne qui dort, caractérisé par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Et Cervantes nous disait « Béni soit celui qui inventa le sommeil », Patrick Lemoine.
Eh oui, c'est que quand on dort bien, c'est un vrai bonheur de dormir. Donc il avait bien raison, Cervantes. Mais malheureusement, comme tout le monde parmi vos invités, on voit surtout des gens qui dorment mal. Et là, c'est une vraie malédiction.
À quoi sert le sommeil exactement ?
Alors le sommeil, vous m'auriez posé cette question il y a quelques années, je vous aurais dit, bon, ça sert à se reposer. Mais en fait, maintenant, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de fonctions du sommeil. Peut-être que la première fonction, c'est de peut-être vivre plus vieux. Parce que au cours de la nuit, eh bien, on est capable de réparer, pardon, c'est un peu technique, ce qu'on appelle les télomères, c'est-à-dire les extrémités de nos rubans d'ADN, qui sont le garant de notre longévité. Et puis aussi, toutes les nuits, on restaure notre système immunitaire. Et ça, c'est très important en ce moment, en ce temps de Covid, parce que si on dort mal, eh bien, on risque de manquer cette fonction immunitaire et donc d'être plus vulnérable aux infections. Si vous suivez mon regard du côté du Covid-19, vous verrez que c'est pas une bonne idée. On sait aussi que si on dort mal, on a plus facilement le cancer. Ça a été montré chez les infirmières de nuit, par exemple. Et puis aussi, la nuit, on fait baisser la tension artérielle. Et de ce fait, quand on dort mal, on risque plus d'avoir une hypertension avec tout son cortège d'infarctus, d'AVC et toutes ces choses très désagréables. Et puis, quand on dort mal, eh bien, on fait pas baisser non plus les tensions psychologiques. Et on sait que quand on dort pas bien, eh bien, on risque d'avoir soit des troubles anxieux, soit au contraire des troubles dépressifs, puisque certains auteurs pensent que l'insomniaque de 20 ans fera le déprimé de 40 ans.
Pourquoi ? Quel
est... Bref, ça sert à plein de choses, le sommeil.
Oui. Quel est le mécanisme concernant l'anxiété et la dépression, Patrick Lemoine ?
Ben, au cours de la nuit, si on dort bien, eh bien toutes tout ce qu'on appelle les neurotransmetteurs qui forment l'anxiété, eh bien ça baisse. Et si on reste, par exemple, quand on est déprimé, eh bien le taux de cortisol la nuit reste très élevé. Et ça perturbe complètement les rythmes. Et on sait quand même que la dépression, c'est le modèle des maladies qu'on appelle chronobiologiques, à savoir que, par exemple, quand on est déprimé, on est mal le matin, on est bien le soir. C'est donc une perturbation des rythmes. Et c'est probable. Alors, on ne sait pas qui est la poule, qui est l'œuf. Est-ce que c'est parce qu'on est déprimé qu'on dort mal, ou est-ce que c'est parce qu'on dort mal qu'on est déprimé? Mais il y a vraiment une interaction entre les deux choses.
Professeur Isabelle Arnulf, de quelle façon le sommeil entretient, répare nos capacités cérébrales?
Alors la première fonction cérébrale qu'on lui connaît, c'est d'entretenir notre mémoire, de la consolider pendant le sommeil. Et puis, donc on gagne à peu près 20% de mémoire en plus en dormant sur un apprentissage. Ensuite, il semble se faire pendant le sommeil un certain nombre d'associations qu'on ne fait pas en journée, avec une créativité, de la déduction plus importante après avoir dormi. Et puis, comme le disait Patrick Lemoine, une digestion des émotions négatives pendant le sommeil. Les personnes, à part les déprimés bien sûr, où c'est l'inverse, les personnes qui se couchent tristes se réveillent normalement plus gaies, à condition de bien dormir.
Gérard Bonnet, pardon, allez-y.
Il existe enfin une dernière fonction qui est supposée, mais intéressante dans le cadre du Covid, c'est la fonction de simulation de la menace que l'on retrouve essentiellement pendant les rêves. Vous savez que beaucoup de nos rêves sont plutôt négatifs que positifs, et qu'ils mettent volontiers en scène notre quotidien d'une manière moins agréable. Je pense par exemple au chauffeur de taxi qui ne trouve pas ses rues la nuit, à celui qui doit faire un concert le lendemain et qui ne retrouve plus ses notes. Et certains auteurs pensent que c'est une des fonctions du sommeil, et en particulier des rêves, de mettre en scène des scénarios négatifs pour mieux y faire face s'ils arrivent à nouveau dans la journée. Ce serait quelque chose qu'on aurait gardé de façon darwinienne.
Le regard du psychanalyste Gérard Bonnet.
Écoutez, moi je suis plus sensible à ce qui a été dit tout à l'heure par l'un et l'autre sur le phénomène d'endormissement. Hein, parce que je pense que pour beaucoup de personnes, la grosse difficulté, c'est ce petit laps de temps pendant lequel, j'allais dire, on lâche prise pour trouver le sommeil. Freud parlait du phénomène de Silberer, deux fois d'ailleurs dans l'interprétation des rêves, pour dire que tout à coup, on arrive à tout lâcher et on ne pense plus à rien. Et curieusement, dans ce moment où on ne pense plus, arrivent des idées, des images, des choses très floues, et c'est cette période-là qui permet de passer de la veille au sommeil. Alors, le gros problème, bien sûr, c'est que si on a des préoccupations, si on a été en difficulté juste avant de dormir, cette période ne peut pas se mettre en place. Et donc, on ne peut pas dormir parce qu'on est accroché, j'allais dire, par le réel. Donc, je crois qu'il faut être très attentif à cette période-là, quoi qu'il arrive, parce que elle nous fait un peu peur, hein, parce qu'il faut lâcher prise. Et puis alors, la deuxième chose qui est importante, puisque on parle de cette période dans laquelle nous sommes, c'est que, inévitablement, la période dans laquelle nous sommes et les événements qui s'y passent nous font revivre dans la nuit des choses du passé. Hein. Autrement dit, on vient de parler du rêve, là. C'est évident que nos rêves vont être provoqué par ce qui a été plus ou moins évoqué. Alors, Dieu sait si le confinement, hein, l'enfermement, est quelque chose qui, pour beaucoup, et pour certains en particulier, qui ont vécu des périodes difficiles, nous met dans une sensation de constriction, comme on dit, qui va nous empêcher de nous laisser aller au sommeil, ou alors de faire des cauchemars terribles. Vous savez, en ce moment, on dit qu'il faut faire attention aux anciens, Mais le problème, c'est surtout que beaucoup d'anciens ont vécu des périodes de confinement à la fin de la guerre, par exemple, les gens qui étaient enfermés pendant les bombardements, dans des caves, et qui ont senti des choses horribles et qui n'ont jamais pu exprimer. D'ailleurs, est-ce qu'on peut l'exprimer, hein? C'est-à-dire qu'il y a des traumatismes comme ça qui restent et qui vont soit empêcher de dormir, soit provoquer des cauchemars. Auquel cas, il faut les écouter, les laisser raconter ce qu'ils ont vécu. Alors aujourd'hui, on dit qu'il faut faire attention, mais on leur donne pas suffisamment la parole, hein. Donc je crois que c'est un élément important pour ceux qui ont du mal à dormir, c'est peut-être à la fois d'être attentif à cette période intermédiaire, et puis surtout de se dire qu'est-ce que ce confinement me rappelle, qu'est-ce qu'il réévoque, et auquel cas il n'y a qu'une solution, et c'est pas donné à tout le monde bien sûr, c'est de trouver dans son environnement des personnes avec qui les raconter. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, on dit aujourd'hui, et c'est vrai que c'est terrible qu'au fond, on a perdu la mémoire des épidémies du passé. Hein. Si on en avait un peu plus pris conscience, on aurait été plus méfiant aujourd'hui. Mais moi, je dis, on a surtout perdu mémoire des moments terribles qu'ont vécu certains de nos anciens, et que aujourd'hui, bien, mon Dieu, c'est l'occasion de leur permettre de les raconter et de faire cette transmission qui est tellement importante et qui permet aux générations à venir d'être sensibles non pas seulement aux futures épidémies, mais aussi à toutes ces traumatismes qui ont perturbé leurs anciens.
Bienvenue, Nathalie.
Bonjour. Bonjour à toutes et tous.
D'où appelez-vous, Nathalie ?
Du Grand Est.
Bien, quel est votre témoignage ?
Alors voilà, moi je suis quelqu'un qui dort très bien. Et donc précédemment, je dormais toujours très bien, mais toutes les nuits, je me réveillais en panique, croyant être fiévreuse. Et puis donc, au bout d'un instant, je me rendais compte que c'était simplement la chaleur d'être dans mon lit, et puis ça se passait. Mais là, ça fait, disons, une bonne semaine, je ne sais pas, c'est approximatif, que ça ne me réveille plus. Je n'ai plus la sensation, mais quand même, quand je me réveille la nuit, même calmement, je me touche le front systématiquement pour voir si je ne suis pas fiévreuse. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de spécialement peureux ou voilà, j'avais cette angoisse, moi qui ne suis jamais plutôt, je suis plutôt cool dans la vie, je prends les choses comme elles viennent, voilà.
Très intéressant, professeur Isabelle Arnulf, Nathalie qui habituellement ça dort bien, ne fait pas de mauvais rêves.
Oui, ça souligne tout à fait cette idée qu'on simulerait les menaces pendant le sommeil. Alors quand un contenu émotionnel d'un rêve est très intense, il finit par réveiller le sujet. Et il est possible que les réveils que ressent Madame soient liés à ça, et puis on encode à ce moment-là plus les rêves. On a aussi en ce moment des rêves de suffocation dans la population. C'est vrai que c'est un virus qui touche le système respiratoire, donc on peut tout à fait comprendre que notre cerveau travaille cette notion-là pendant le sommeil, même s'il respire bien.
Docteur Patrick Lemoine.
Oui, alors il y a aussi un autre élément, parce que je souscris tout à fait à ce qu'a dit Isabelle Arnulf, mais il y a un autre élément qui est important, c'est qu'actuellement, du fait du confinement, toute la population subit ce qu'on appelle un jet lag social. À savoir que, comme on a moins de motivation le matin pour se lever, eh bien on a tendance à faire des grasses matinées. De ce fait, on a tendance à s'endormir plus tard, et on sait que si on retarde le moment du lever, eh bien, on produit plus de sommeil paradoxal et donc plus de rêves. Et déjà, je conseillerais à Nathalie aussi peut-être de se lever un peu plus tôt et de manière bien régulière, et puis de respecter ses rythmes en ayant des repas à horaires réguliers, avec sa famille ou sur Facebook avec ses amis régulièrement. Le soir, évidemment, de pas avoir de lumière bleue, c'est-à-dire pas d'écran. Bref, retrouver des rythmes, parce qu'effectivement, c'est pénible d'avoir ces cauchemars qui sont, je suis tout à fait d'accord, une mise en scène des risques qui planent sur nous et contre lequel il faut quand même essayer de se prémunir en essayant de digérer. Parce que le cauchemar sert aussi à digérer un traumatisme. Et je suis aussi d'accord avec le psychanalyste quand il insiste sur cette fonction justement de traumatisme passé. Dans mon expérience, il y a plusieurs méthodes pour essayer d'aller plus loin que ces cauchemars et de s'en débarrasser quand ils deviennent invalidants. La première, une des plus efficaces, c'est l'hypnose et l'auto-hypnose qui fonctionne très bien. La deuxième, si c'est sévère et que ça vient dans le cadre d'un syndrome post-traumatique, on a parlé des gens qui avaient subi des bombardements, eh bien, c'est le MDR. Et puis, si on est dans des petits cauchemars pas trop méchants, comme Nathalie en parle, eh bien, ce que je conseille toujours, c'est de rédiger le matin ou au cours de la nuit le cauchemar. On le rédige par écrit, parce qu'il y a un travail de l'écriture, comme il y a un travail du rêve, et d'inventer un scénario de bonne fin. J'étouffe, je suis en réa, je vais mourir. Ah, tout d'un coup, heureusement, il y a un médecin génial dans le style de nous trois qui vient sauver Nathalie, et au bout de deux ou trois nuits, en général, c'est réglé.
Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir appelé. Allez, dites-nous si vous dormez moins bien en ce moment. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Julia Macarez, Denis Deras et Josépha Gourvennec m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Céline Hila, avec l'aide de Valérie Ayestaraï, à la technique ce matin Guillaume Roux. Hommage à Christophe, décédé hier soir à l'âge de 74 ans. Christophe, un homme d'une gentillesse incroyable, à l'humour constant, que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer.
Quand on ne joue plus les marlous, je n'ai pas revu Cabalou. Rien n'a plus, rien n'a plus vraiment le même goût. Viviane Leigh a les cheveux blancs, elle regrette le noir et blanc. Pour autant qu'en emporte le vent. Wow, wow, wow. Seigneurita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Seigneurita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé la Alhambra. Bien retenir un tramway nommé Désir. Hollywood, Hollywood ne veut pas mourir. Marilyn aurait 50 ans, James Dean n'est plus un géant. Rien n'est plus vraiment comme avant. Wow, wow, wow. Seigneurita, dépêche-toi, je sens qu'il est bien tard déjà. Quand ma guitare a sous mes doigts les caprices d'une diva. Seigneurita, dépêche-toi, j'espère que tu ne m'en veux pas. Mais les fins comme au cinéma, tu sais ça n'existe pas. Quand on n'est plus sur sa moto, il se meurt dans un tango, retenant le dernier sanglot. Tous les Indiens sont en VO à l'ouest du Rio Bravo. Rien ne va plus, rien ne va plus, même chez les gringos. Wow, wow, wow. Seigneurita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Seigneurita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé la Alhambra. Seigneurita, dépêche-toi, j'ai oublié les alors danse, danse pour moi. Seigneurita,
hommage au grand Christophe, Seigneurita.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
9h28, comment dormez-vous en ce moment? Faites-vous des rêves plus bizarres, plus intenses que d'habitude, davantage de cauchemars? Pour vous répondre, le professeur Isabelle Arnulf, le docteur Patrick Lemoine et le psychanalyste Gérard Bonnet, et avec nous comme tous les vendredis, Guillemette Audicino. Bonjour Guillemette.
Bonjour Ali.
Et vous avez une question.
Vous avez bien dormi?
Oui, moyennement là cette nuit, c'est un peu compliqué. Votre question, s'il vous plaît.
Oui, parce que vous savez, moi j'ai une propension déjà assez glissante à être noctambule. Donc je ne vous raconte pas le décalage dans mes heures de sommeil en ce moment, en période de confinement. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et je me rappelle toujours ce que disait mon grand-père, que il fallait s'endormir avant minuit, que c'était les heures avant minuit où le sommeil était réparateur. Alors, est-ce que bon sens est vrai ou pas?
Isabelle Arnulf.
Oui, c'est vrai, dans la mesure où si on dort assez tôt, on aligne bien, c'est un alignement de planètes, le sommeil, hein, le sommeil profond, et le sommeil profond de début de nuit, vous savez, que c'est celui dans lequel on fabrique l'hormone de croissance, et donc les enfants grandissent pendant le début du sommeil, mais nous, les adultes, on grandit plus, mais on fait toutes sortes de bonnes choses à ce moment-là, on fait du muscle, on fait de l'os, on diminue notre graisse, donc effectivement, si on place bien le sommeil sur l'horloge, il fonctionne mieux. Si vous décalez trop, vous allez faire moins de sommeil profond, avoir un sommeil plus fragmenté.
Alors, nous recevons beaucoup de questions sur le rythme induit par le confinement. Est-ce que le confinement perturbe notre rythme biologique et donc automatiquement notre sommeil, Patrick Lemoine?
Oui, alors je voudrais d'abord rassurer Guillemette, qui à l'évidence est un sujet du soir. On sait que c'est génétiquement programmé. Je suis sûr qu'elle a un peu de mal à être ponctuelle d'ailleurs. Eh bien, le fait d'être du soir fait que c'est pas le sommeil d'avant minuit, mais c'est les trois premières ou les quatre premières heures de sommeil aux horaires habituels. Donc si sa programmation c'est de dormir de 1h à 8h du matin, eh bien c'est de 1h à 4h du matin qu'il aura le sommeil vraiment utile. Si, comme moi qui me lève à 5h30 parce que je suis un sujet du matin pathologiquement ponctuel, eh bien pour moi le sommeil utile c'est de 10h30 à 2h30 du matin. Donc c'est vraiment important, nos grands-mères avaient raison, à l'époque où minuit c'était le milieu de la nuit, on vivait avec le soleil, et effectivement, de 20h à 4h du matin, en été, eh bien, on dormait comme ça très bien avant minuit.
Et sur ma question sur perturbation des rythmes biologiques...
Pardonnez le thérapeute qui a voulu rassurer. Donc oui, actuellement, le confinement fait que soit on travaille plus du tout, soit on télétravaille, et en tout cas, on a une totale liberté sur les rythmes, ce qui est une très mauvaise idée. On doit absolument respecter ces rythmes, les rythmes pour lesquels on a été programmé génétiquement, j'insiste là-dessus. Le grand secret du sommeil, dont tout le monde se fout en fait, ce qui compte c'est l'éveil. On peut presque vivre sans dormir, mais on peut pas vivre sans être réveillé. Eh bien, le grand secret c'est, si aujourd'hui j'ai eu une pêche d'enfer, si j'étais très en forme, de quelle heure à quelle heure j'ai dormi hier soir? Si j'ai dormi de 23h à 7h, ce qui est le plus classique, ben c'est que c'est parfait à partir du moment où dans la journée j'étais en forme, j'ai pas eu de coup de pompe, j'ai pas eu besoin de faire la sieste, j'ai pas eu des problèmes de concentration. Donc mon grand conseil en période de confinement, c'est levez-vous comme si vous alliez au travail. Si vous télétravaillez, faites-le comme si vous étiez au bureau. Respectez tous les horaires habituels pour les enfants de se lever comme s'ils allaient à l'école, d'avoir des récrés, de manger ensemble. Bref, il faut en confinement ne surtout pas dériver vers le bas, parce que si on dérive vers le bas, ce que j'appelle le jet lag social, c'est-à-dire le retard de phase, eh bien, c'est la porte ouverte vers la dépression. J'avais publié un papier qui montrait que beaucoup de dépressions, c'était des gens du matin qui se comportaient comme des sujets du soir, qui, au lieu de respecter, comme moi je vous disais, 10h30, 5h30, ben, si je me mettais, à cause du confinement, à me coucher à minuit, à me lever à 8, 9h, eh bien, je risque effectivement une grosse dépression.
Isabelle nous écrit « Je fais énormément de rêves et de cauchemars en ce moment. C'est foisonnant. Il y a beaucoup de personnages, de lieux et je me souviens de tout au réveil, beaucoup plus qu'avant. » Professeur Arnulf, qu'est-ce qu'un cauchemar et quelle est son utilité?
Alors, déjà, l'augmentation des rêves actuellement, qui a été montrée par Perrine Ruby dans la population, elle est liée au fait que les gens dorment un peu plus. Et il faut aussi voir ce côté positif du confinement. Ils sont moins dans les transports et ils peuvent dormir une demi-heure, une heure de plus. Mmh. Et dormir plus sur veut dire aussi plus de sommeil paradoxal sur le matin, comme le disait Patrick. Au niveau et puis il y a moins de bruit la nuit. On entend enfin les oiseaux. Enfin, à Paris, c'est incroyable. On a les merles qui chantent le soir, ce qu'on n'entendait pas avant. Et ça, c'est moins de perturbation du sommeil. Alors, l'abondance de rêves vient probablement de cette abondance de sommeil et de sommeil paradoxal. Et puis, pour se souvenir d'un rêve, il faut généralement se réveiller. Et il y a peut-être un peu plus de fragmentation actuellement du sommeil, de micro-réveil lié au côté un petit peu plus stressant de notre vie, de cette petite menace cette grande menace qui plane sur nous. Alors, un cauchemar, c'est un mauvais rêve, un rêve avec des aspects négatifs, de peur, de colère, de surprise, de dégoût. Par rapport à un mauvais rêve, l'intensité de l'émotion est plus forte et il réveille la personne. On fait tous des mauvais rêves qui nous réveillent pas. On est probablement en train de traiter de l'information émotionnelle. À partir du moment où ça nous réveille, on pense que le processus de digestion des émotions négatives pendant le sommeil fonctionne moins bien. Donc il faudrait en fait ne pas se réveiller. Ce serait idéal, en tout cas le moins possible.
C'est un mécanisme de défense, le cauchemar ?
Le mauvais rêve, probablement, dans la mesure où, on ne sait pas encore tout, mais probablement parce qu'il est majoritaire dans la population, même ceux qui ne sont pas déprimés, même ceux qui ne sont pas malades. Et par contre, quand ça réveille la personne, on pense qu'il n'a pas fini l'histoire, en quelque sorte. Et donc, les techniques que proposait Patrick Lemoine tout à l'heure, pour essayer de finir l'histoire sans se réveiller et la digérer complètement, sont tout à fait d'actualité.
À partir de quel seuil le cauchemar peut-il devenir pathologique ?
Je pensais que Patrick répondrait, mais de notre côté, on fait tous des cauchemars. Il y a 5% de la population qui en fait vraiment très très souvent depuis qu'ils sont tout petits. Et puis il y en a beaucoup plus dans les pathologies psychiatriques et puis dans certaines autres maladies neurologiques. Alors on considère que c'est un problème, que c'est une maladie à partir du moment où la personne a du mal à se rendormir après le cauchemar, a du mal à anticiper le sommeil la nuit suivante parce qu'elle a peur de le refaire. À partir du moment où le cauchemar modifie son émotion dans la journée, où elle est très mal parce qu'elle a rêvé d'une chose horrible. Voilà, c'est à partir du moment où ça impacte sur la vie de la personne.
Gérard Bonnet, d'un point de vue psychanalytique, quelle est la fonction du cauchemar ?
Le cauchemar, finalement, c'est ressortir des traumatismes ou des vécus extrêmement difficile, hein, très, j'ai presque dire, impossible à formuler vraiment, où l'affect l'emporte sur les mots, vous voyez, là où il n'y a pas eu possibilité vraiment de l'exprimer. Je parlais tout à l'heure du confinement d'autrefois, hein, dans des conditions quelquefois horribles, et qu'on a réussi à refouler complètement, et qui va revenir justement à la faveur du moment où se produisent des choses analogues. Mais dans la question de votre correspondante tout à l'heure, moi j'ai surtout été frappé par l'abondance des rêves, hein, si je peux en dire un mot tout de suite, parce que je trouve extraordinaire qu'aujourd'hui on puisse enfin laisser l'efflorescence, j'allais dire, des rêves. Parce que, vous savez, aujourd'hui, enfin récemment, parce que Freud ne le disait pas comme ça, on dit que le rêve est un discours adressé à quelqu'un. C'est-à-dire qu'au fond, comme on est confiné et qu'on ne peut pas parler avec les gens de notre environnement, on leur adresse inconsciemment des petits messages comme ça. Hein, autrement dit, on laisse ouvert notre univers intérieur et on continue à parler. Vous voyez ? Mais alors, à parler à partir de ce qu'on a de plus profond et que généralement, on refoule ou on laisse de côté. Et je trouve que, pour ceux qui peuvent le faire, hein, parce que la question est toujours celle du temps, mais ça vaut la peine de noter certains de ses rêves et de passer du temps à aller, vous savez, comme Freud disait dès ses premiers rêves, à associer librement, c'est-à-dire à écrire tout ce qui nous passe par la tête. Mmh. Voilà. Et certains de ses rêves, finalement, tout à coup, deviennent des messages adressés à l'autre, ou des poèmes, ou des choses créatrices qu'on a en soi, et qui vont donner à ce confinement une richesse qu'on n'aurait pas espérée. Vous savez, autrefois, enfin, on le fait encore dans le milieu religieux, on faisait des retraites. Mmh. Hein. Pendant les retraites, on essayait de se retrouver. Mais je dis que c'est un peu une retraite, mais alors une retraite, non pas avec la divinité ou les anges, mais une retraite avec les vécus les plus profonds qui, tout à coup, se mettent à parler aux gens d'aujourd'hui. Donc, ceux qui le peuvent, encore une fois, mais ça vaut la peine de prendre du temps, puisqu'on a le temps, n'hésitez pas à prendre un cahier, ça fait un peu scolaire, mais de noter tel rêve, de dire spontanément tout ce que ça vous vient à l'esprit, ça enrichit énormément l'esprit, et ça peut être finalement, pendant cette période de confinement, un moment de ressourcement extraordinaire. Donc je suis vraiment en accord avec la personne qui disait tout à l'heure qu'elle rêvait énormément, parce que je dis c'est la chance du confinement pour ceux qui peuvent avoir cette possibilité.
Docteur Patrick Lemoine, pour terminer en quelques mots, comment mieux dormir sans somnifère dans cette période de confinement ? Il faudrait évidemment plusieurs émissions pour apprendre à dormir ou lire votre dernier livre, mais un dernier conseil peut-être ?
Alors c'est vrai que les somnifères sont à éviter autant que possible parce que ce sont des produits qui sont toxiques à terme et de toute façon qui ne marchent pas. Et ce que je conseille moi, c'est d'une part d'utiliser la mélatonine à libération prolongée parce que la mélatonine immédiate n'a rien démontré. Si possible, un dosage d'au moins 1,9. Là, c'est un complément alimentaire sans ordonnance. Et par ailleurs, eh bien, il y a quand même des plantes qui ont montré une efficacité de manière scientifiquement correcte. Et je citerai les trois stars qui sont la valériane, l'escoltia ou pavot de Californie, et la passiflore. Et puis je rajouterai quand même la petite dernière que j'aime beaucoup, qui est la rhodiole, qu'on prend le matin pour calmer le stress.
Merci beaucoup, professeur Isabelle Arnulf, docteur Patrick Lemoine et Gérard Bonnet. À suivre, le temps de réfléchir avec la philosophe Marianne Chaillant, le temps de regarder une série avec Xavier Le Herpeur et le temps de regarder la télé avec Redouane Tella.
Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Je sais qu'il faudra faire encore des détours et voir passer encore des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez moi,
chez moi le soleil est de plomb. Quand pour nous enfin marier nos saisons,
abîme parfois des traces de poussière et le parfum fané des amours passagères qui m'ont rendu la solitude plus légère. À l'aube de mes nuits blanches et solitaires.
Et toi, mon bel amour, dis-moi s'il y a des hommes qui t'ont rendu la vie un peu moins monotone, qui t'aide à supporter l'hiver après l'automne et les silences obstinés du téléphone.
Nous nous raconterons nos triomphes, nos fêtes, mais comment s'avouer toutes nos défaites, l'angoisse qui nous tient, l'angoisse qui nous guette et s'accroche à chaque pensée, à chaque geste.
Je sais que tu seras au bout de mes voyages.
Je sais que tu viendras malgré tous les détours.
Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé.
Étienne Dao et Kerenan, la ligne droite.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebéi.
Et nous prenons le temps de réfléchir à notre condition humaine confinée avec vous, Marianne Chaillant, bienvenue.
Bonjour Ali.
Vous êtes philosophe et vous avez notamment publié la playlist des philosophes. Hommage ce matin au chanteur Christophe.
Oui Ali, je voulais dire quelques mots pour Christophe, car je crois que sa disparition nous blesse tous, un peu, voire beaucoup, en France et ailleurs. Une jeune américaine de 17 ans m'a écrit à l'aube pour me dire qu'en apprenant sa disparition, elle avait, je la cite, « crié pour qu'il revienne ». Jeune et moins jeune, nous portons tous en nous certaines paroles de ses chansons poétiques, car ces chansons ont accompagné pour certains leur jeunesse, pour d'autres tout simplement des moments de leur vie, voire leur vie entière. Et quand un chanteur populaire disparaît, on dirait qu'il emporte réellement avec lui une part de notre propre vie. Et nous pleurons, en le pleurant, une part de nos paradis perdus. C'est vrai pour Christophe. Le temps est-il notre ennemi? Le temps détruit-il tout? Ce sont des questions de philosophie qu'affrontait Christophe et avec lui, derrière les mots bleus de ses chansons, Jean-Michel Jarre. Le temps est un joueur avide, écrit Baudelaire dans son terrible poème L'Horloge. Chaque instant nous dévore un morceau du délice. Et la mort de Christophe nous renvoie, je crois, à ce sentiment douloureux des paradis perdus dont Christophe nous avait si souvent parlé dans ses textes. Dans Aline, rappelez-vous, c'était l'effroi devant la séparation et la disparition. Le visage d'Aline qui s'efface malgré les vaines tentatives de le préserver, ce sont nos paradis perdus, ce sont nos joies parties, ce sont nos amours disparus. Dans Aline, Christophe nous faisait goûter cette saveur douce amère de l'existence qui, après la joie, nous fait irrémédiablement éprouver la perte. Dans Señorita, c'était encore cette tristesse devant la disparition des moments lumineux de l'existence. Señorita nous apprenait que, malgré notre envie de retenir comme Brando le tramway nommé Désir, les tramways toujours s'en vont et le présent devient toujours passé. Christophe nous disait alors l'urgence de vivre avant qu'il soit trop tard. Dans la chanson « Les paradis perdus », les musiciens, vous vous rappelez, sont désormais ridés. Ce sont encore les souvenirs que Christophe rappelle et il demande droit dans les yeux au temps lui-même comment il peut avoir si peu de cœur. Les vrais paradis sont ceux qu'on a perdus, écrivait Proust. Mais les œuvres d'art sont parfois les temples immortels de ces paradis perdus. Le philosophe Sénèque, d'ailleurs, dans La brièveté de la vie, nous l'enseigne. Il nous dit que les œuvres d'art permettent à ceux qui les composent, comme à ceux qui les savourent, de transcender les limites de leur propre existence et de vivre par-delà le temps assassin. Jean-Michel Jarre, ce compagnon de route de Christophe, a récemment créé une œuvre infinie comme un défi à ce temps assassin qui emporte avec lui les rires des enfants. À Chronos, dieu du temps qui détruit tout, Jean-Michel Jarre oppose Éon, dieu du temps infini, car il sait bien que l'art est la seule réponse que l'humanité a su opposer au temps destructeur. Alors, le temps détruit-il tout? Question philosophique qui traversait les nombreuses chansons de Christophe. La réponse est que face au temps, reste la mémoire des vivants, reste l'art, et que Christophe est éternel dans les deux.
À méditer en cette période de confinement. Vous vouliez réagir, Guillemette Odissino?
Ah oui, je suis extrêmement triste, et ne serait-ce bien sûr pour le chanteur, pour l'homme, qui était, comme vous le disiez en début d'émission, un homme charmant. Et puis c'était un grand cinéphile, vous savez, oui. qu'il avait une cabine de projection dans son appartement, où il regardait des films sans arrêt, mais souvent même en boucle pendant des jours. Et de temps en temps, il quittait un film, et puis il s'installait au piano. Et c'est comme ça qu'il a par exemple écrit « Les paradis perdus ». Il l'a écrit juste après avoir regardé Mort à Venise de Visconti. Et d'ailleurs, il y a un film qui lui rend très joliment hommage et où il apparaît un petit peu. C'est Quand j'étais chanteur de Xavier Giannoli.
Oui.
Vous savez, ce film où Gérard Depardieu incarne un chanteur un peu fatigué. Et d'ailleurs, Les paradis perdus est omniprésent dans ce film-là. Et on y voit Christophe à un moment. Il y a juste le temps d'une séquence fantomatique face à Gérard Depardieu. Donc, enfin, vraiment, oui, c'est un acteur aussi de notre temps qui est parti là.
Merci beaucoup, Marianne Chaillan. À très bientôt. Le temps de regarder une série ou un film, c'est notre conseil quotidien. Bonjour, Xavier Leherpeur.
Bonjour, Ali Rébéi.
Producteur de l'émission Une heure en série le samedi à 20h sur France Inter, que l'on peut podcaster. Au programme ce matin, trois séries cultes qui explorent l'enfermement et la claustration.
Absolument, trois séries reposant sur le terme de la claustrophobie, juste pour se dire par comparaison que finalement, eh bien, il y a pire que notre sort actuel. Alors, à la troisième place, j'ai placé donc Lost, créé par J.J. Abrams et Damon Lindelof. J.J. Abrams, pour rappel, c'est le réalisateur du dernier Star Wars, mais également le prolixe producteur et créateur de séries telles que Fringe ou encore Westworld. Et Damon Lindelof, on lui doit entre autres récemment la série Watchmen qu'il a produite et scénarisée. Petit rappel des faits pour ceux qui auraient vécu sur Mars ces dernières années et seraient passés sous le radar d'une des séries majeures des années 2000, le vol 815 de la compagnie Oceanic Airlines explose en vol. Le cockpit s'écrase sur une île du Pacifique, non répertoriée, bien sûr, sur les cartes. Sinon, ça n'est pas drôle, vous en conviendrez. Une île, endroit idéalement propice pour une série sur le confinement, mettant en scène des survivants hagards, confrontés à l'impossibilité de pouvoir s'enfuir. Ajoutez à cela des éléments fantastiques comme une bête féroce invisible, des autochtones peu amènes et l'apparition de signes mystérieux et vous obtiendrez 6 saisons hautement addictives à forte teneur claustrophobe. Si le final avait été un peu moins bâclé, je n'en dirais pas plus, la série serait sans doute mieux placée dans ce classement totalement subjectif. Deuxième place, Oz, la plus grande série carcérale à ce jour.
Je suis d'accord avec vous. Ali ? Ah oui, oui, c'est la plus grande série carcérale, et c'est une série, moi, qui m'a complètement bouleversé, secoué, enfin c'est une série très violente, mais une série extraordinaire, Xavier.
À voir et à revoir, intemporel, qui n'a pas pris Inrich ni Tom Fontana, auquel on doit homicide et Borgia. Elle débute en 1997, soit donc une prison impossible de faire plus confinée, là aussi vous en conviendrez, plus exactement une unité carcérale pilote où se côtoient les criminels les plus violents. Et dans les murs de ce lieu expérimental, un précipité de la société américaine gangréné par ses fractures, ses iniquités, ses violences et ses tensions raciales, suprémacistes blancs, gangs d'afro-américains, meurtriers irrécupérables, si son directeur rêve de réinsertion, ce pan d'ici d'un pénitentiaire moderne est en réalité un haut lieu de la haine, de la domination psychique et des sévices, on va y arriver, physiques. Six saisons brutales, tendues et anxiogènes, reste à ce jour la série pour moi la plus malaisante qui soit. Et enfin, et en tête, la combinaison imparable des deux éléments clés des séries précédentes, une île, bien sûr, et une prison à ciel ouvert. Vous aurez compris, je vais vous parler du Prisonnier, le chef-d'œuvre de Patrick McGowan, créé et interprété par lui-même à partir de 1967. Un agent britannique donne sa démission. Il rentre chez lui préparer une valise pour des vacances bien méritées. Un gars s'échappe, le plongeant dans un profond sommeil. Il se réveille dans son appartement, sauf qu'il n'est plus à Londres, mais dans un lieu étrange, entouré par la mer, dénommé le village, et que son identité a disparu. Il n'est plus désormais que le très anonyme numéro 6. Une série stylisée et inquiétante, inspirée par la paranoïa aiguë de la guerre froide de l'époque, mais qui aujourd'hui encore n'a rien perdu de son intense pouvoir traumatisant. Une saison unique, hélas, 17 épisodes, sans réelle résolution, qui depuis sa création ne cesse de questionner et susciter moult débats et interprétations. Mais pour moi, une chose est sûre, on n'a jamais fait mieux.
Générique du Prisonnier, mon cher Xavier Le Herpeur, merci
et
de nous
avoir... Le générique, c'est un chef-d'œuvre, c'est génial en termes de montage, d'ambiance, c'est formidable.
Merci beaucoup de nous avoir conseillé Lost, Oz et Le Prisonnier. On vous retrouve lundi, mon cher Xavier Le Herpeur, merci beaucoup. Bonjour Edouane Tella.
Bonjour Ali Rémy.
De l'instant M, vous prenez le temps de regarder la télé et vous nous recommandez ce matin La Petite Librairie de François Bunel, diffusée sur France 5.
Oui, une toute petite émission créée spécialement pour le confinement et diffusée quotidiennement, non pas que sur France 5, mais sur toutes les chaînes du groupe France Télévisions, sur France 2 à 13h50, sur France O à 18h40, sur France 3 à 18h50, sur France 4 à 21h, sur France 5 en fin de soirée. Et vous pouvez bien évidemment la voir en replay sur le site de France TV. En gros, si vous ne tombez pas dessus, c'est que vous ne faites vraiment pas d'efforts. Et ce serait dommage, parce que La Petite Librairie, c'est l'une des créations les plus intéressantes de ce confinement. Petite sœur assumée de la grande librairie de France 5, devenue le rendez-vous médiatique par excellence des lectrices et des lecteurs. Alors, je vous préviens, La Petite Librairie, c'est très court, comme son nom l'indique. On y retrouve l'espace de 2 minutes seulement, François Bunel, chez lui, devant sa bibliothèque, et il fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir nous parler de livres qu'il aime. Outre son matraquage quotidien sur toutes les chaînes du groupe France Télé, la grande force de La Petite Librairie, c'est sa production. On en oublie que c'est une émission fabriquée en plein confinement. On est loin de la télé faite par certains en webcam. L'animateur est filmé avec une caméra professionnelle et un graphiste habille chacune de ses émissions d'illustrations et de citations. Le concept de La Petite Librairie est simple, à chaque jour un nouveau livre. Bunel nous partage ses coups de cœur. Parfois, il parle d'œuvres récentes, comme hier quand il a choisi de présenter « Espère en ton courage », le dernier livre de Sophie Nolot, sorti en février dernier. Mais il s'autorise aussi à aborder de grands classiques. Et quel classique au programme aujourd'hui, l'Iliade d'Homère. Moi, je peux vous dire que La Petite Librairie me donne envie de lire ou de relire les œuvres présentées, parce que c'est une émission incarnée, c'est l'émission de François Bunel. Et quoi qu'on pense de cet animateur, il est devenu une sorte de label. Son regard est un gage de qualité. Ce qu'on aime chez lui, c'est qu'il n'a pas le regard d'un critique, plutôt celui d'un passionné de lecture. Bunel nous parle de lecteur à lecteur et ça fait toute la différence. Il parle de ses livres avec énormément de gourmandise et peu importe qu'on finisse ou non par les lire, ses livres, on prend plaisir à l'écouter comme on aime écouter un ami s'enthousiasmant au sujet de sa dernière lecture. Bref, moi je vous recommande vraiment à découvrir cette émission, je vous invite vraiment à la découvrir cette émission et j'espère que France Télévisions saura faire exister La Petite Librairie encore longtemps. Personnellement, j'ai pas envie d'avoir disparaître après le confinement.
La petite librairie sur France 5, sur France 4, sur France O, sur France 2.
Sur toutes les chaînes du groupe France Télévisions.
Et nous avons également une amie qui conseille des livres tous les jours, c'est Christine Lapelle-Edouel, en deuxième partie d'émission. Dans un instant, merci beaucoup Redouane Tella, on vous retrouve lundi. Dans un instant, la chronique très attendue de François Morel.
She pleases, 'cause she's happy on her own, and she picks up all the pieces. She's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
Yeah, she's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
Caribou, interprété Home.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
9h55, il est temps de retrouver l'indispensable chronique de François Morel. Bonjour François Morel.
Bonjour Ali. À quoi tu penses? À rien, non, à rien. Je pensais juste, François Hollande, c'est un visionnaire. Le changement, c'est maintenant. Il l'a dit juste un peu en avance. Le changement, c'est vraiment maintenant. Ne plus avoir le droit d'aller dîner chez des copains, d'aller au restaurant, au théâtre. Se demander même si à l'automne, on pourra y retourner. Ça, c'est un vrai changement dans nos têtes, dans nos habitudes. Plus une seule salle de spectacle ouverte, tu te rends compte? Jusque-là, tous ces gens qui toussaient, ils allaient au théâtre. Si les théâtres sont fermés, où vont-ils aller tousser? Et puis je pensais, c'est curieux, tous ces théâtres fermés, alors que depuis la tragédie grecque, c'est-à-dire plusieurs semaines encore avant l'arrivée de Roselyne Bachelot sur Terre, c'est là que les masques étaient en plus grand nombre. À quoi tu penses ? À rien. Je pensais qu'on disait que sous l'occupation allemande, les théâtres n'avaient jamais été aussi pleins. Sous l'occupation virale, les théâtres n'auront jamais été aussi vides. Je me disais aussi que dans les périodes tragiques, le théâtre, c'est le moment où il devrait être le plus utile, le plus indispensable que jamais, ou mieux qu'au théâtre, partager nos incertitudes, crier nos colères, consoler nos douleurs, pleurer nos morts. Je me disais que lorsque le confinement sera fini, il faudrait quand même retrouver des occasions de se réunir. Je pensais aussi à quoi ça sert un comédien quand il n'est pas sur scène, à apprendre des textes qu'il ne dira jamais, à répéter des scènes qui ne seront jamais jouées. À quoi tu penses? À rien? Non, je pensais juste, c'est marrant les gens. Chris Esquer, par exemple, qui de tous les humoristes de France Inter est peut-être celui qui est le moins dépendant de l'actualité. Ce n'est pas celui qui est le moins touché. Il m'écrit dans un mail, c'est bizarre, je m'attendais à perdre l'odorat ou le goût, et je suis en train de perdre le goût des chroniques, mais c'est transitoire, paraît-il. J'ai bon espoir qu'on puisse revenir en studio pour quelques derniers enjeux. Si j'osais, je profiterais bien de parler dans le poste pour dire à Chris que je souhaite vraiment que ce soit transitoire, parce que la perspective de le réentendre fait partie des petits bonheurs de la vie auxquels on tient. À quoi tu penses? Je pensais aux mots bleus, aux mots qu'on dit avec les yeux, avec la voix aussi. Je pensais à tous ceux qui sont seuls, confinés, qui pourtant font des chœurs, chacun chez soi, mousquetaires du confinement. Je pensais à cette chanson si belle, si simple, que chantaient Bourville et Marie Laforêt, écrite par Hubert Giraud et Noël Roux, et qu'on peut redécouvrir sur la toile, très joliment réinterprétée par Valentin Vander, Marjolaine Piémont, Aurélien Merle, Gauvin Serre, Sophie Lecam et tous les autres. À quoi tu penses? À rien? À toi? À nous? Je t'aime.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non.
Merci beaucoup François Morel. On se retrouve vendredi prochain.